Et maintenant, Jean-Pierre Vinter, qui va conclure notre matinée avant le débat.
Vous l'aurez constaté, s'agissant de la transmission du travail de Françoise Dolto, nous avons affaire depuis quelque temps, non pas à ce qui s'en transmet, mais au raté de la transmission. Je vais donc essayer, sur un point précis, non pas de rétablir complètement ce qui a été son élaboration, mais même si ça n'est que partiellement, essayer de remettre en quelque sorte son enseignement sur ses pieds. Je vais donc parler, essayer de vous dire un minimum de choses dans le temps qui m'est imparti sur la façon dont elle a traité un sujet qui est, vous le reconnaîtrez, tout à fait d'actualité, la question de la culpabilité et de la façon dont les psychanalystes sont pris à partie dès lors que tel est le sujet de polémique ou de réflexion. Nous ne nous efforçons pas vers quelque objet, nous ne le voulons, nous le poursuivons, ni ne le désirons pas, parce que nous jugeons qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne jugeons qu'un objet est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le voulons, le poursuivons et le désirons. Cette phrase pourrait être de Françoise Dolto, elle pourrait être de Freud, elle pourrait être de Lacan, elle est de Spinoza. Il s'agit bien d'un jugement. Et de ce fait, ce retournement de l'éthique traditionnelle consistant à dire que c'est parce qu'une chose est un bien que nous la désirons, le retournement étant que c'est parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est un bien, ce retournement de l'éthique traditionnelle modifie insensiblement, Freud disait que Spinoza avait fait le lit de la psychanalyse, en voici une des raisons, modifie donc la façon dont nous allons appréhender la question de notre culpabilité. Sur ce point donc, l'on peut dire que Lacan et Dolto, partant de Freud et de l'expérience de la pratique analytique, arriveront à des conclusions semblables, qui pourraient d'ailleurs se synthétiser dans la suite que Spinoza a donnée à ce que je viens de vous lire, et qui se dit de la façon suivante: une idée qui exclut l'existence de notre corps ne peut se trouver en notre esprit, mais lui est contraire. Une idée qui exclut l'existence de notre corps ne peut se trouver en notre esprit, mais lui est contraire. Pour Dolto, en témoigne son article publié dans la revue Psyché en 1948, « Les sensations synesthésiques d'aise ou de malaise, origine des sentiments de culpabilité », et dont Jacques Seda avait quelque peu parlé lors de la précédente rencontre ici même. Dans cet article, donc, qui date de 1948, pour Dolto, l'enfant commence par ressentir dans son corps si une chose est bonne ou non, agréable ou désagréable, donc par déduction, si il l'a ressentie dans son corps, il dira que cette chose est désirable ou pas, bien avant de la désigner comme étant bien ou mal, belle ou laide, etc. Dolto dit dans ce texte, tout à fait capital au regard de cette question de la culpabilité, Et si je vous en fais part, c'est pour vous dire, dans la ligne de ce que vient de dire Olivier Grignon, à quel point ses propositions, son élaboration, s'inscrit profondément dans son expérience clinique et pas dans une idéologie quelconque. Même si, par ailleurs, vous allez entendre tout à l'heure que, bien évidemment, comme tout le monde, elle est victime du discours par lequel elle est tenue à son insu. Elle dit donc « Il faut étudier l'évolution de l'enfant par rapport au bon et au mauvais depuis sa naissance jusqu'à la formation de ses premiers jugements conscients sur le bien et le mal. Jugements parlés par d'autres qu'il entend. Jugements formés par sa propre expérience, mais exprimables à partir de 12 à 18 mois seulement. Puis à l'aide des mots des autres, mais pas avant 2 ans et demi, 3 ans. Tout jugement, donc fermez les guillemets, tout jugement, et là la psychanalyse fait un pas de plus que le philosophe, tout jugement donc, s'il s'édifie sur la satisfaction ou l'insatisfaction de nos pulsions, est motivé par la crainte, par la peur, qui détourne le sujet en le conduisant à s'éloigner de son désir. Dolto disait que l'observation confirmait régulièrement que, qu'il soit conscient ou inconscient, le sentiment de culpabilité sera chez l'adulte comme chez l'enfant, sous-tendu par la crainte. Crainte d'un mal à subir, d'une blessure ou d'une douleur imaginée, d'un danger fantasmé, d'un malaise accolé à la représentation claire ou confuse des conséquences impliquées par le désir même de certains actes, dont le sujet a mémorisé les risques à travers son propre corps. C'est seulement par des études cliniques de l'embryogénie des états inconscients de bien-être et de malaise, accompagnant les étapes du premier développement, que nous comprendrons les éléments psychosomatiques, l'angoisse et ses manifestations organiques individuelles, qui sont à l'œuvre dans le sentiment inconscient, dans le sentiment inconscient de culpabilité. Ainsi que nous pouvons le constater donc dans l'expérience analytique avec les névrosés, je dirais que déculpabiliser un sujet, c'est le ramener au point où sa capacité à juger du caractère fantasmatique ou réel de ce qui lui fait peur a été inhibée. Son jugement de réalité est parasité par la culpabilité qu'engendre sa peur. Comment ? Eh bien, tout simplement par ce raccourci que nous pouvons constater jour après jour, séance après séance, ce raccourci qui consiste à substituer au jugement une condamnation préalable. Le sujet croit qu'il juge alors qu'il a déjà, il s'est déjà condamné. Une condamnation qui a précédé le jugement et qui s'avère condamnation de quoi ? Condamnation de son désir qui va se confondre avec le renoncement symboligène à la satisfaction de ses pulsions. Pour le dire clairement, c'est parce que il a dû renoncer à la satisfaction de ses pulsions, dans l'ordre où, vous allez l'entendre pendant tout le week-end, j'imagine, où François Dolto nous a appris à les repérer, c'est parce qu'il confond donc le renoncement à ses pulsions avec le sacrifice de son désir, que en renonçant à certaines de ses pulsions, il lui arrive de condamner globalement tout son désir. Voici comment Dolto disait très rapidement, voici comment elle voyait les choses, donc en 1948, dans le texte auquel je viens de faire référence. Car la condamnation peut être interne ou venir de l'extérieur et être intégrée par le sujet. Il est possible, dit-elle, d'inhiber le cri spontané du nourrisson, et cela constitue en réalité, à cet âge oral, un traumatisme qui peut provoquer non seulement une perversion, mais même une inversion des rythmes vitaux par lesquels on handicape sérieusement le développement ultérieur de l'adulte. Condamner l'expression libre chez le tout petit au stade oral et même plus tard, avant l'âge de la parole, c'est condamner dans son origine l'ensemble de l'expression de la libido telle qu'elle aura à se déployer à travers les stades ultérieurs, anal, urétral et génital. Tout l'être psycho-affectif est vulnérable dans sa première pousse, cette pousse issue de la graine en germination qui est destinée à devenir le tronc de l'arbre. Il en ira tout autrement plus tard des atteintes par élagage des branches secondaires. Alors, elle poursuit, je ne vais pas tout vous lire, on n'a pas le temps. Elle poursuit dans ce registre.
Comment ?
Et j'en arrive à la fin de ce passage où elle dit « Dans nos sociétés citadines, c'est dès le berceau et plus encore après la marche qu'apparaît la coercition dans l'éducation. Ce qui est bon pour l'enfant devient dès lors pour lui mauvais du fait des adultes et est par lui lié au sentiment d'un danger. L'enfant, pour obéir, inhibe un certain temps ses mouvements d'expression. Mais en lui, les pulsions de vie s'accumulent alors sans s'exprimer à l'extérieur. Les exigences instinctives étant en conflit avec les exigences de la morale, entre guillemets, du comportement imposé par l'adulte, cela amène l'enfant à régresser, c'est-à-dire à s'exprimer sur un mode plus infantile. Il crie, tape du pied au lieu de moduler sa voix à la recherche du langage. Il tombe assis par terre en remuant les jambes et les bras par flexion sur le tronc, comme un tout petit nourrisson. Parfois, il se roule par terre, régressant au stade d'avant 6 mois antérieur à la position assise. C'est l'ensemble de ce comportement qu'on appelle un caprice. L'enfant peut ainsi, à travers des stades régressifs, retrouver une certaine satisfaction organique de ses pulsions. Le caprice lui apporte la satisfaction nécessaire à l'apaisement de sa tension libidinale, mais il s'agit alors d'un enfant déjà névrosé. Mais ce que Françoise Dolto décrit là n'est plus accessible à l'analyse que dans l'après-coup de la culpabilité œdipienne, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, en tout cas pas directement, qui, elle, reflète l'ambivalence plus ou moins intense du sujet à l'égard de ses rivaux. Ceci étant, la culpabilité s'originant, comme vous l'avez entendu, dès l'origine, dans le corps pulsionnel, bien qu'elle ne soit pas à proprement parler un concept analytique, la culpabilité, n'est pas non plus, pour Françoise Dolto, un concept moral ou religieux. J'avais étudié en son temps la façon dont elle traite la culpabilité du point de vue, justement, de la foi, du point de vue du péché, disons. Je ne vais pas le reprendre aujourd'hui, mais je voudrais insister sur ce fait, sur ce qu'elle dit dans un autre texte que je vous engage tous à lire et à méditer, qui s'appelle « Solitude ». Dans « Solitude », elle dit, et c'est tout à fait surprenant au regard de ce qu'elle a pu dire, justement, du rapport de la culpabilité avec le péché, donc au regard de sa méditation sur ce que c'est véritablement que la notion de péché, elle dit « La culpabilité, ça n'a rien de religieux. C'est un sentiment laïque, en rapport avec des expériences que l'enfant sent comme quelque chose de dévalorisant. » Et histoire d'enfoncer le clou, de bien convaincre que ce n'est pas du tout de sa part une référence à quelque moralité chrétienne ou autre, elle ajoute « Même les chiens ont des culpabilités. »
Certes,
les chiens, oui, mais les chats, et mieux même les rats, eux, non. En tout cas, apparemment. Pourquoi ? Peut-être parce que, comme le disait Lacan, les chiens sont plus que les autres des animaux domestiques, c'est-à-dire des animaux totalement névrotisés par l'homme. Les enfants culpabilisés dès leur plus jeune âge sont ceux qui sont ravalés au rang d'un animal domestique. Mais si la culpabilité est laïque, c'est aussi parce qu'elle exprime ce que Freud, lui, interprétait comme un héritage collectif et que Françoise Dolteau, d'une certaine façon, réfutait. Est-ce parce qu'elle était femme qu'elle le réfutait ? Est-ce parce qu'elle était croyante ? Je ne sais pas, peut-être pour les deux. Mais je sais qu'elle partageait, et je viens de vous en donner acte, l'opinion de Freud selon laquelle l'équilibre de la vie en société se paye d'un certain prix, parfois très lourd. La vie collective exige de limiter l'espace offert à l'expression directe de la haine meurtrière inconsciente à l'égard du père. Ce qui implique, selon Freud, il le dit dans Moïse et le monothéisme, une puissante réaction contre cette haine inconsciente qui aura pour nom culpabilité inconsciente. Culpabilité inconsciente, laquelle, à son tour, conduit le sujet à des renoncements pulsionnels, cette fois conscients. Encore plus importants, mais qui vont le rendre à nouveau, cette fois consciemment, haineux. Cela conduit donc le sujet sur la voie du masochisme moral et va le laisser dans un état permanent d'apeurement. Je sais que Françoise Dolteau, je le sais pour en avoir parlé avec elle, et vous en avez le témoignage dans les images, les mots, le corps, qu'elle n'aurait pas été d'accord avec cette façon de théoriser cette dialectique de la haine inconsciente, du père et de la peur. Mais j'avance l'hypothèse qu'elle devait toutefois y songer, même si elle ne le reconnaissait pas. Puisque, par exemple, dans l'image inconsciente du corps, elle note que nous passons notre éducation à fausser les enfants. Je répète, dit-elle, la culpabilité déculpabilisée par la mère, vous m'entendez bien, la culpabilité d'un enfant déculpabilisé par la mère, cela ne vaut rien. Ce qui compte, c'est d'être déculpabilisé par le père, celui qui est marqué pour être plus sévère. Mais s'il pardonne, cela prouve que c'est vraiment effacé et que l'on peut se pardonner à soi-même. Le rôle du père et le rôle de la mère ne sont pas les mêmes par rapport au sentiment de culpabilité. Alors c'est un fait. Et je fais cliniquement le même constat. D'ailleurs, à l'appui de ce constat, je vous citerai rapidement une anecdote qui montre que l'enfant n'est pas sans un certain savoir de ça. Je pense à un de mes fils qui se préparait à faire une énorme ânerie et qui n'a pas manqué de la faire. Pour le punir, je lui dis « monte dans ta chambre ». Et c'était 20 minutes avant le repas. Donc, sa chambre étant à l'étage, au moment du repas, je l'appelle et je lui dis « descends, on va dîner ». Et il descend pas. Une première fois, une deuxième fois, donc j'y vais. Et je lui dis « mais enfin, c'est la troisième fois que je t'appelle, pourquoi tu descends pas ?» Et en larmes, il me dit « tu ne sais pas qu'un père, quand il a levé une punition, il doit le dire à son fils ?» Eh ben non, je ne savais pas. Mais je pose la question à Françoise Dolteau. Pourquoi donc, vous reconnaîtrez que ce n'est pas tout à fait à la mode, ce n'est pas politiquement correct, pourquoi donc le rôle du père et de la mère serait-il par rapport à la déculpabilisation ou au sentiment de culpabilité, pourquoi seraient-ils des rôles différents ? D'abord, pour parler comme Françoise Dolteau, d'abord parce qu'on constate que c'est comme ça.
Ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça. Et on constate surtout que quand c'est pas comme ça, ça déconne lourdement. Mais enfin, c'est surtout, question donc que je lui pose, c'est pas seulement parce que le père est marqué de plus de sévérité dans l'inconscient. C'est parce que cela renvoie à la, d'où mon hypothèse, cela renvoie à la culpabilité inconsciente à l'égard du père. C'est-à-dire que quoi que ce soit dont nous nous sentions coupables, in fine, ça renvoie à cette culpabilité inconsciente que seul le père peut lever puisqu'il est, lui, lié à cette culpabilité inconsciente par la haine inconsciente. C'est-à-dire soit du fait de la haine inconsciente et historique côté homme, soit du fait, ce qui est exactement équivalent, du déni d'amour ou du désir de séduction côté fille, mais toujours à l'égard du père. D'ailleurs, les exemples qui viennent sous la plume de Françoise Dolto vont, à son insu, spontanément dans le même sens. Alors, je ne sais pas si j'ai... Il me reste combien de temps ? Ouais, je peux y aller ? Très rapidement, donc. Elle dit... Elle donne quelques exemples. Et vous allez voir que, spontanément, elle en vient à parler, évidemment, du père. S'il vaut mieux, elle parle de l'autisme, s'il vaut mieux pour l'autisme que ce soit la maman qui fasse le traitement pour rétablir la communication, il vaut mieux aussi que ce soit le père pour déculpabiliser un enfant qui se croit coupable. On n'imagine pas à quel point les enfants peuvent se sentir coupables. Prenons un exemple. Le père est chômeur, l'enfant croit que c'est de sa faute. Le père en dépression d'être chômeur devient coléreux, l'enfant croit encore que c'est à cause de lui. Si papa est triste, s'il est renvoyé de son travail, s'il est impuissant, c'est pas dans la loi donnée par papa. Cela prouve que l'enfant a fait quelque chose de mal et que son père a fait quelque chose lui aussi de mal. J'ai vu ça pendant la guerre, comme par hasard. Du jour au lendemain, à l'annonce que les pères étaient prisonniers, les consultations furent pleines d'enfants de 8 à 12 ans qui faisaient pipi au lit, alors qu'ils faisaient plus pipi au lit depuis l'âge de 3 ans. « Mon père est prisonnier, je suis un salaud, un rien, puisque papa est prisonnier, puisque papa est un salaud. » Les enfants croyaient que leur père était mort. Mort pour la patrie. Bon, enfin, je ne vais pas tout vous lire, mais vous entendez bien que ça va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Enfin, pour conclure, rappelons que depuis longtemps, mais surtout à notre époque, et Françoise Dolto l'avait pressenti dès 1968, la charge de la culpabilité s'est inversée. C'est pas seulement que les parents culpabilisent, comme vous l'avez entendu, les enfants dans leurs désirs. C'est maintenant, avec insistance, et tous les jours un peu plus, les enfants qui ont affaire à la culpabilité des parents. Et voire même les enfants qui culpabilisent les parents. Ce qui, vous l'avouerez, ne réussit ni aux uns ni aux autres. Je dois à Catherine Dolto d'avoir attiré mon attention sur un texte qui date de 1968 et qui est publié dans Au jeu du désir, qui, une fois entendu, devrait permettre de remettre les pendules à l'heure dans l'accusation faite aujourd'hui, qui est devenue quasiment une mode, d'une Dolto qui saperait l'autorité parentale. Or, justement, c'est incompatible avec tout ce que je viens de vous dire de sa théorie sur la culpabilité. Alors voilà comment elle s'exprime. L'angoisse que les parents éprouvent à diriger les comportements en 68, c'est vous dire, vous allez entendre. L'angoisse que les parents éprouvent à diriger les comportements de leur enfant, à le contrôler, à le corriger, à sévir, doit être analysée, ainsi que leur crainte de le traumatiser, crainte qui peuvent entraîner l'abandon par eux de leur rôle éducatif et du rôle répressif qu'ils ont à jouer à l'égard des manifestations incestueuses de leur enfant. Ce dernier, au contraire, a absolument besoin, car cela le libère de son angoisse de castration, que les parents et surtout le père puissent assumer et soutenir les tensions structurantes de son désir, qu'ils mettent un terme aux attitudes tolérantes, indulgentes ou surprotectrices, voire complices, qui avaient été les leurs, et à juste titre, pendant la maladie de leur enfant. L'angoisse des parents est parfois réellement névrotique. Leur non-intervention éducative au nom d'éventuels traumatismes qu'ils risqueraient de causer à leur enfant est un des problèmes d'aujourd'hui. C'est à partir de notions psychologiques et psychanalytiques répandues dans la littérature et mal comprises que bien des enfants sains parvenus au stade du complexe d'Œdipe ne sortent pas de la crise du seul fait de parents qui ont échoué dans leur rôle d'éducateur. Les parents, en l'occurrence, faillissent à leur signifier l'interdit du désir en tant qu'incestueux, interdit qui porte tant sur les frères et sœurs, qu'ils soient ou non du même sexe, que sur les parents. Cette angoisse qui empêche les parents d'éduquer les enfants risque de nos jours d'entraîner les premiers, au moment de la crise œdipienne, à céder au chantage caractériel ou psychosomatique d'un enfant jusque-là sain et sans problème. La période œdipienne, au moment de sa résolution, étant toujours une période critique. Il retarde ainsi et parfois entrave la résolution de l'angoisse de castration caractéristique de la crise du complexe d'Œdipe en ce qu'elle a d'inévitable. Et pour terminer, en résumé, les attitudes démissionnaires des parents se soldent toujours pour l'enfant par un échec autopunitif inutile, nuisible à son développement. Un mot pour conclure, qu'il y ait une différence entre culpabilité inconsciente et culpabilité consciente, cela signifie qu'il ne suffit pas de se sentir coupable pour se croire innocent. Il se peut que le sujet ait raison de se sentir coupable, même s'il en est arrivé là du seul fait d'une faille dans l'inscription symbolique du nom du père. Je vous remercie.